Le journal, Hélène Roussel, bonjour Hélène.
Bonjour. Le son et l'image, première fois qu'il prend la parole publiquement depuis la victoire de Joe Biden. Donald Trump hier dans les jardins de la Maison Blanche, le Covid, les vaccins et même un sous-entendu sur la possibilité de sa défaite. La crise sanitaire en France, le chômage partiel, y compris dans la grande distribution, on vous explique pourquoi dans un instant. Le confinement pour tous, des associations à Lyon veulent réquisitionner des bâtiments pour les SDF. Et puis dans l'actualité encore, l'opérateur Orange remporte le gros morceau. Le fisc va devoir lui verser plus de 2 milliards d'euros, la fin d'une longue bataille. Et puis les sports, les Bleus au Portugal, c'est du foot, Ligue des Nations ce soir. Et le Vendée Globe, gros plan sur le seigneur de la troupe en deuxième position ce matin, Jean Le Cam.
Et à 8h20, notre invité, Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National.
France Inter. Donald Trump, le cheveu blanchi devant micros et caméras pour la première fois depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden il y a une semaine. Le président s'accroche à son bureau ovale, mais parle du Covid, du vaccin surtout pour très bientôt et avec un sous-entendu sur la possibilité de sa défaite qui n'aura échappé à personne. Sébastien Paour à Washington.
La conférence de presse se tient dans la roseraie de la Maison Blanche. Donald Trump vante la rapidité avec laquelle le vaccin est développé. 8 à 12 ans normalement, moins d'un an sous sa présidence, une autre administration aurait pris, selon lui, 3, 4 ou 5 ans. C'est 5 fois plus rapide que n'importe quelle conception d'un vaccin dans l'histoire. 5 fois plus rapide que le premier vaccin de développement dans l'histoire. Puis il assure qu'il n'y aura pas de confinement tant qu'il sera président. Avant d'éviter le lapsus de justesse sur les choix de la prochaine équipe.
Whatever happens in the future, who knows which administration will be? I guess time will tell. But
quoi qu'il se passe à l'avenir, dit Trump, qui sait quelle administration sera en place? Le temps nous le dira. Le président sortant ne reconnaît toujours pas sa défaite. Il n'évoque pas non plus dans son éloge de la gestion de la crise les quelques 130 agents du Secret Service qui l'accompagnaient ces dernières semaines en meeting et qui sont à l'isolement, positifs ou cas contact. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et Trump, qui officiellement donc ne concède rien, n'exclut pas même de manifester aux côtés de ses partisans tout à l'heure à Washington, alors que Joe Biden engrange les grands électeurs. 290 avec l'Arizona qui a basculé hier, en bonne voie aussi pour remporter la Géorgie, jusqu'à faire plier Pékin. La Chine félicite hier le démocrate. C'est dans ce contexte que Mike Pompeo entame lui une tournée en France aujourd'hui, avant la Turquie, Israël ou encore les Émirats Arabes Unis. Une visite qui sera scrutée car le secrétaire d'État américain a vivement critiqué les dirigeants trop prompts selon lui à reconnaître la victoire de Joe Biden, à commencer par Emmanuel Macron. On parlait de la flambée de Covid aux États-Unis. New York envisage même de fermer à nouveau ses écoles, mais l'épidémie continue ses ravages ici aussi. En France, le nombre de patients en réanimation se stabilise, trop tôt pour savoir si ce sont les effets du confinement, d'autant qu'il y a toujours 95% des lits occupés et 467 décès en 24 heures. Un confinement maintenu, prolongé, c'est une certitude au-delà du 1er décembre pour les restaurants, les bars ou encore les salles de sport. Et les mesures d'aide au secteur en difficulté maintenu aussi, assurait Jean Castex jeudi soir, à commencer par le chômage partiel. Un dispositif, et c'est étonnant quand on sait que ce sont les rares commerces encore ouverts, qui touchent à présent la grande distribution. Explication avec Sarah Lemoine.
Pour les salariés de la grande distribution, c'est la double peine. Après avoir travaillé la boule au ventre pendant le premier confinement, voilà désormais le chômage partiel. Chez Carrefour, son déploiement est massif. D'après nos informations, 90 000 employés sur 110 000 sont concernés. 2 jours par semaine pour les salariés des bureaux, 2 à 3 jours pour ceux des rayons fermés, 1 jour par quinzaine pour les caissières, les vigiles ou les salariés des rayons à la coupe. Selon la direction, cette décision est justifiée par la baisse de fréquentation et la perte de chiffre d'affaires liée à la fermeture des rayons non essentiels, ce que contestent les syndicats. Chez Casino, le groupe a circonscrit le chômage partiel aux seuls salariés des rayons non alimentaires, soit 800 employés, sans perte de salaire. Chez Auchan, la décision est prise magasin par magasin, en ciblant là aussi les employés privés de rayons, mais le maintien de salaire n'est pas encore gagné. Chez Monoprix, en revanche, la perte de salaire liée au chômage partiel ne sera pas compensée. Selon la CGT, la mesure concerne les salariés de 230 magasins et des salariés de bureaux à divers niveaux.
Sarah Lemoine, dans la crise sanitaire, il y a aussi des angles morts, les quartiers populaires. Un appel de détresse lancé aujourd'hui par une centaine centaines d'élus. Lettre ouverte au président Macron, 2 ans après le plan banlieue, 3 ans après l'appel de Grigny, rien n'a changé, disent-ils, et la crise sanitaire empire les choses, explosion des demandes d'aide alimentaire, du chômage, du nombre d'allocataires au RSA. Il y a non-assistance à territoire en danger, disent-ils encore, et le risque du décrochage à la République, du repli identitaire. Pour faire face, ces élus demandent à toucher 1% des 100 milliards d'euros débloqués dans le plan de relance. En bref, encore après Paris, voici Bordeaux. À partir de ce soir, les restaurants et les bars qui font de la vente à emporter auront permission de 22 heures, pas plus tard. Évitez, comme dans la capitale, l'attroupement devant les enseignes. Et quand on n'a pas de chez soi, comment faire pour respecter la règle? À Lyon, les associations réclament un droit au confinement pour tous les sans-abri, avec pourquoi pas réquisition de bâtiments désaffectés. C'est un reportage signé Christophe Vincent.
Fermée et murée, une ancienne clinique de Villeurbanne est vouée à la démolition. D'ici là, l'association Donner la main, don de soi voudrait y héberger des sans-abri. Son président, Jean-Marc Roffa.
Nous, ce qu'on veut, c'est pour la première fois en France, et on le dit au président de la République, qu'on pourrait faire du zéro sans-abri. Ce sont des bâtiments où il y a des chambres, où il y a encore des toilettes, des douches. Pourquoi les sans-abri n'ont pas le droit, comme les autres, d'être confinés?
Fabrice dort dans la rue. Trouver refuge dans une clinique inoccupée lui conviendrait.
On n'a pas de toit, on ne peut pas être confiné. On se sent un peu oublié, ouais, largement même. Il y a des gens, ils sont super sympas. Hein. Il y a des collègues à moi, ils dorment le matin, ils se lèvent, ils ont un petit billet à côté d'eux. Ils sont contents, et ouais, mais le billet, ça ne fait pas tout. Ce qu'il faut, c'est être au chaud et être tranquille, quoi.
Soraya Cassi s'occupe de migrants squatteurs qu'elle verrait bien dans un lieu aménagé.
Ces personnes qui vous livrent tous les jours à manger, ce sont que des migrants. Vous savez où ils retournent dormir ? Dans des tentes ou dans des squats désaffectés. On ne peut pas laisser ces personnes dehors.
D'après les associations, les sans-abri sont épargnés par le virus. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Il est 8h07, Hélène Roussel, une affaire fiscale hors norme. L'opérateur Orange obtient gain de cause et va toucher plus de 2 milliards d'euros.
Autant dire le gros lot en ce vendredi 13. Après 10 ans de bagarre, Orange a donc remporté le morceau hier. Le Conseil d'État condamne le fisc à lui verser 2 milliards 200 millions d'euros. Un litige fiscal que nous décrypte Hélène Philly.
L'affaire remonte à une quinzaine d'années. En 2005, Orange, alors France Télécom, est en pleine réorganisation interne. L'opérateur dissout une holding baptisée Cogecom, utilisée pour effectuer des acquisitions. Mais Bercy estime que le groupe n'a pas payé les impôts qu'il devait à l'issue de cette opération. Résultat, redressement fiscal, Orange doit régler une ardoise d'1,9 milliard d'euros au fisc. Un vrai marathon judiciaire débute ensuite, car Orange conteste. Le litige est complexe, les allers-retours avec la justice nombreux. La décision du Conseil d'État hier est donc une vraie victoire dont l'opérateur s'est immédiatement félicité. Au total, en tenant compte des intérêts, il estime que l'État va lui rembourser pas moins de 2 milliards 200 millions d'euros. Un trou dans la caisse dont se seraient bien passées les finances publiques. A l'inverse, pour Orange, le chèque tombe à point nommé. Même si les entreprises télécom ne sont pas celles qui souffrent le plus de la crise actuelle, elles doivent faire face à des investissements importants, ne serait-ce que pour boucler le déploiement de la fibre.
Monsieur gagne le pain, madame garde le foyer, la page est plus que tournée. Un congé paternité qui passe de 14 à 28 jours, le Sénat a voté pour, très largement cette nuit. Mesure phare du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2021 et qui doit entrer en vigueur au 1er juillet prochain. La France en alerte terroriste maximale et un texte d'Emmanuel Macron hier soir. Son hommage aux victimes des attentats du 13 novembre se termine par un appel à ne rien céder. La lutte jusqu'au Sahel, Barkhane frappe un grand coup, Bahag Moussa, l'un des grands chefs militaires d'Al-Qaïda, a été tué mardi. Et on a appris ce matin que l'armée française avait également tué une trentaine de djihadistes dans la région de Mopti, c'est au centre du Mali. Et puis cette information sortie par le New York Times ce matin, le numéro 2 d'Al-Qaïda, Abdullah Ahmed Abdullah, aurait été assassiné secrètement en Iran au mois d'août dernier par des agents israéliens sur ordre des États-Unis. La paix à tout petit pas. En Libye, les négociations continuent sous l'égide de l'ONU. Hier soir, les participants se sont mis d'accord sur une date importante, des élections nationales pour le 24 décembre 2021. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le terrain, la situation, elle, se détériore. Une avocate défenseuse des droits de l'homme a été tuée mardi à Benghazi. Elle s'apprêtait par vidéo à dénoncer la corruption du camp Haftar, le général qui est toujours l'homme fort dans l'est du pays. Benghazi, entre émotion et terreur, Maureen Mercier a recueilli des témoignages rares.
Hanan Albarassi, 46 ans, abattu en pleine journée sur l'une des plus grandes artères commerçantes de la ville. Elle dénonçait sur les réseaux sociaux les élites corrompues de l'est du pays et les groupes armés fidèles au maréchal Haftar.
Je suis vraiment sous le choc. La peur contrôle la ville désormais. Le message qu'adressent les tueurs, c'est qu'ils contrôlent la ville et que tous ceux qui tenteront de les dénoncer, dire la vérité et dénoncer cette corruption seront abattus comme elle.
Ce jeune homme est activiste lui aussi à Benghazi. Il témoigne anonymement pour se protéger.
Dans l'une de ses vidéos, elle s'adressait à ses tueurs parce qu'elle s'attendait à être tuée à tout moment. Elle leur disait « Couvrez au moins mon visage et ne jetez pas mon corps en pleine rue ». Et c'est exactement ce qu'ils lui ont fait.
À l'Est, impossible de dénoncer les actes du maréchal, encore moins lorsqu'on est une femme. Il y a un an et demi, une parlementaire a été enlevée après avoir critiqué son offensive armée sur la capitale Tripoli. Elle n'est jamais réapparue depuis. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
À l'étranger encore, les Philippines inondées après le passage du typhon Vamco, le cyclone le plus meurtrier de l'année. Des dizaines de villes au nord de la capitale, Manille, submergées par les eaux et encore des milliers de personnes à évacuer.
Hélène, il est 8h11 et on passe au sport.
Avec le foot, cinquième journée de la Ligue des Nations, un air de finale titre l'équipe ce matin. Les Bleus jouent au Portugal, trois jours après le ratage dans les grandes largeurs face à la Finlande, 2-0. L'équipe de France doit rassurer, il faudrait gagner ce soir. Alors les cadres sont attendus au tournant. Les Giroud, Pogba, Griezmann, pas très en forme ces derniers temps, mais il faut leur faire confiance, dit Bichente Lizarazu, notre consultant foot.
Pogba a montré que c'était un très grand joueur. Il a montré qu'il était très important avec l'équipe de France et il a été là dans des grands moments. C'est justement là que l'entraîneur doit être là, le sélectionneur doit, c'est dans les moments difficiles. Sinon ça serait trop facile. Toi joueur, tu donnes ton max à ton entraîneur et puis quand tu es en difficulté, il te lâche. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Et donc Didier Deschamps, de façon très logique, il est là, il le soutient dans une période difficile, il joue moins avec Manchester United. Je sais pas ce qui se passe dans ce club-là, mais c'est comme Griezmann avec Barcelone aussi, c'est un peu les mêmes effets. Il faut pas que c'est un effet sur l'équipe de France. Donc, il a pas été bon là, mais pour moi, il sera toujours un joueur majeur de l'équipe de France pour le prochain championnat d'Europe.
Voilà, le consultant foot de Radio France, Bichente Lizarazu avec Matteo Maestrachi. Portugal-France, coup d'envoi ce soir, 20h45.